Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffi et Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Auditeurs, nous nous trouvons à Sassandra. Et à Sassandra, nous avons eu la chance de rencontrer une personne âgée. Ce sont ces personnes-là qui ont encore l'histoire de nos différents villages, de nos villes. Nous sommes venus rencontrer celui que j'appelle affectueusement mon père. Papa, bonjour. Vous allez dire vos noms et prénoms et ce que vous avez fait autrefois.
Bonjour, je m'appelle Assouma Kwame Vincent. Je suis administrateur des services financiers de classe exceptionnelle, actuellement à la retraite.
Anio, comment je dois vous appeler ? Chez les Akans, on appelle la personne âgée Nana. Chez les Néo, on dit quoi?
Zoubognon.
Zoubognon. Sassandra.
Ce terme, il a été défini plusieurs fois et dans des versions différentes. Cependant, il faut remarquer qu'en 1469, un Portugais du nom de Da Costa de Souza, la première rade où un navigateur s'est arrêté, c'est ici. C'est d'ici qu'il est parti à Assini. Donc c'est ici que les Blancs sont arrivés pour la première fois en Côte d'Ivoire, mais ici à Sassandra.
Et c'est d'ici qu'ils se sont rendus à Assini.
C'est d'ici que Da Costa de Souza est parti à Assini. Après, il y a eu plusieurs voyages de voiliers. Nous en parlerons tout à l'heure.
Alors, si Da Costa a choisi de s'arrêter ici, autrefois, un peu partout, les gens cherchaient à venir à Sassandra. Qu'est-ce qui faisait que les gens descendaient à Sassandra?
D'abord, il y avait le port, ce qui constituait un centre économique où chacun pouvait trouver de quoi vivre. Quand nous naissions, Sassandra était une ville convoitée et recherchée. Les choses sont passées comme par le, enfin, dignement. Puis, à partir de 1970, Sassandra a commencé à sombrer. Depuis cette époque, nous avons des difficultés. Puisque tout le monde croit qu'il existe un Dieu, quand on lit la Bible, il est écrit quelque part que les premiers seront les derniers. Sassandra, qui était en tête à l'époque, est devenu le dernier de la classe.
C'est ce que vous dites parce que vous avez suivi le développement de Sassandra. Tout à l'heure, vous avez posé la question à un jeune qui est venu avec moi. Vous dites, mais ça fait combien de temps vous êtes parti chez vous, dans votre village? Il a dit, ça fait 2 ans. Vous avez dit, c'est pas possible. Alors que moi, je vous ai posé déjà la question. Vous avez dit, presque tous les mois, vous étiez à Sassandra.
Oui, quand je travaillais, tous les mois, je venais 2 fois à Sassandra. Parce qu'il ne faut pas s'éloigner de ses parents, il faut être en contact avec eux, il faut suivre leur vie, il faut comprendre ce qu'ils veulent afin de penser au développement de la ville.
Et en venant pendant cette période-là, Sassandra, c'est par où vous passez pour arriver ici?
On passait par Gagnoua-Sassandra, ensuite par Lakota-Sassandra, et à un moment donné par San Pedro-Sassandra, pour maintenir l'état du véhicule qu'on utilisait.
C'est pas facile, hein?
Non, pas facile du tout. Et on était tenu de venir.
Vous avez beaucoup été patient à Sassandra.
Et nous sommes toujours patients. Nous pensons que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et même qu'hier. Mais la patience a des limites. Moi, quand je naissais, Sassandra était une ville bruyante. Où chacun voulait venir. Y compris les Européens. Mais depuis un certain temps, nos enfants, nos parents ont des difficultés. Il manque tout. Le mot tout n'est pas faible. Il est suffisamment fort pour décrire ce que je pense.
Il vous manque tout à Sassandra. C'est le constat que moi aussi j'ai fait quand je suis rentré dans la ville. Le peu de goudron même qui était dans la ville a disparu. Maintenant, c'est la poussière. Et Sassandra, il faut dire en toute sincérité, n'a pas totalement changé, n'a pas changé dans le bon sens. Sassandra est stationnaire. Bref, l'histoire. Très tôt, ici a été choisi comme port. Les gens venaient et tout à l'heure, mon consultant, celui qui est le représentant du tourisme à San Pedro, Jean-Philippe Niango. Jean-Philippe Niango, c'est lui le représentant du tourisme à San Pedro. Tout à l'heure, il a dit qu'il y a une statue d'un bateau qui a échoué et vous avez rectifié. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre?
Bien, nous étions déjà dans les années 1945. Nous avons la guerre entre la France et l'Allemagne.
De la Deuxième Guerre mondiale.
Mais quand nous nous sommes réveillés le matin, nous avions des corps partout, des chaises, enfin, du tout. Tout ce qui a été cassé dans le bateau, que nous appelons du mana. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Mais derrière ce qui s'est passé, il y a une histoire que nous conservons, que nous ne voulons pas raconter. En tout cas, le monument qui est là, on nous a dit que c'était un naufrage. Mais là, je répète que c'était pendant la guerre de 48.
On a découvert un matin, à la surprise générale, des corps un peu partout, au bord de la mer, et on a peut-être déduit que c'est peut-être un naufrage.
Oui, c'est la déduction qui a été faite. Mais quand on approfondit l'analyse, il se pourrait qu'il y ait une autre cause. Laquelle cause? Je dirais que nous n'en connaissons pas.
Et qu'est-ce qu'on a mis là pour rappeler ces tristes souvenirs?
Pour mémoire, tous les ans, les Anglais viennent de poser une gerbe de fleurs. Peut-être, eux, dans leur traduction, savent ce que vaut la statuette. Et nous, nous ne faisons que la regarder et l'observer.
On ne peut pas dire que ce sont les Anglais qui étaient morts là, mais ce qui est sûr, presque tous les ans, les Anglais viennent et ils déposent une couronne ou bien une gerbe de fleurs.
Oui, c'est effectif tous les ans. Presque tous les ans, ils viennent de poser une gerbe de fleurs. Quand ils ont fini la cérémonie, ils repartent avec leur avion ou l'hélicoptère.
Sassandra a vécu ses tristes souvenirs sans savoir exactement ce qui lui arrivait. Et ce monument a été construit là. Il est toujours entretenu par l'Angleterre. Les néos de Sassandra, ils sont venus d'où?
Les néos de Sassandra font partie du grand groupe Crew. Ils sont arrivés comme des émigrants. Ils se sont installés. Il y en a qui se sont installés le long de la plage. Il y en a qui se sont installés à l'intérieur, le long du fleuve. Donc nous avons des villages néos. La plupart des villages sont en bordure de la mer et quelques-uns à l'intérieur. Lateco et Bassa, les deux villages sont côte à côte et sont de même origine. Donc c'est deux villages qui ont l'habitude de marcher ensemble. Mais il n'y a pas que Lateco et Bassa. Ce groupe-là, nous l'appelons le groupe Kébé. Ils ont la même manière de vivre, ils ont les mêmes coutumes. Voilà.
Et les néo de Sassandraville, comment on les appelle?
Des néo. Parce que le village mère des néos de Sassandra, c'est Missei. À Missei, c'est là que nous étions avec le grand-père, puis par la suite, avec l'arrivée des voiliers, on a commencé à s'éparpiller. L'aîné de la famille, c'est celui qui a créé Gaourou, où il y a le pont Végan, qui a été construit en 1945 pendant la guerre. Celui qui le suit s'appelle Doukwa. Lui, il n'a pas bougé. Il est resté à Missy, c'est lui qui assure tout le trône. Maintenant, les deux qui suivaient, il y a Dako et Kada. Moi, c'est Kada. Le père a demandé à ces deux-là de venir à l'embouchure pour travailler avec les voiliers. Et nous sommes descendus à l'embouchure où nous sommes restés. Parce que quand les Portugais sont venus, c'est ensuite les Anglais qui sont venus. Ici, presque tous les néos parlaient anglais. Par la suite, les Français sont arrivés. C'est le comportement des Français qui a fait que les Anglais sont repartis.
Qu'est-ce qui a fait que les Anglais sont partis? Est-ce que vous pouvez dire un mot?
Non, enfin, peut-être qu'il n'y avait que deux Anglais qui étaient là. Et les Français étaient plus nombreux, peut-être dans les réceptions, dans les visites, peut-être qu'il se passait quelque chose. Et les Anglais sont partis. Et les Français se sont installés, sont restés. Donc là, nous tendons vers 1893. 1893, la Côte d'Ivoire devient colonie française. Et nous recevons le premier commandant du cercle que nous appelons Georges Thoman. Lequel Georges Thoman a fait beaucoup, beaucoup pour Sassandra. En 1882, la Côte d'Ivoire est une colonie. Nous avons la construction de la première école à Boisseau, à Yéna. Maintenant que la Côte d'Ivoire est devenue colonie française, l'une des toutes premières écoles qui a été créée par Georges Thoman est l'école de Trépoint. Trépoint, c'est un ensemble de trois villages à l'est de Sassandra. Kadroukba, Arokba, Yakba. Moi, en 42, j'étais dans cette école. Voilà une école qui a fait son temps. L'un des premiers employés de la factorerie au Grand Laou est parti de cette école-là. Nous nous sommes retrouvés avec les aînés qui nous ont obligés à construire l'école en dur. Nous avons trois classes, deux bâtiments de maître. Quand je suis venu à la retraite, j'ai été voir l'ambassade d'Allemagne, laquelle ambassade m'a fait honneur en refaisant totalement l'école. L'ambassade nous a donné des bancs, des tables bancs, des tôles, refait le plafond, tout.
Très tôt, l'histoire que vous nous racontez, les populations néo de Sassandra avaient accepté de construire une école ici. Ils connaissaient déjà l'intérêt de l'école?
Oui, ils connaissaient déjà l'intérêt de l'école. Puisque déjà, je dirais en 1882, il y avait déjà une école à Boisseau. Donc, on sentait déjà les bienfaits de l'école. Alors, Georges Thoman, qui est l'ami de la Fosse, Georges de la Fosse, et avec leur contact, puisque de la Fosse, lui, il était à Boisseau, Georges Thoman, quand il est arrivé ici, il a construit l'une des toutes premières écoles quand la Côte d'Ivoire est devenue colonie française.
Sassandra, il y a des anciens bâtiments qu'on a abandonnés. Et ça me fait mal au cœur quand je les découvre. Abandonnés complètement et qui commencent à disparaître.
Mais en toute chose, surtout, il y a la volonté politique qui compte. Nous nous trouvons devant ce problème de volonté politique. Les bâtiments, comme vous l'avez remarqué, nous on le constate, on le voit tous les jours, se dégradent. La première maison qui a été construite par Thoman, elle existe.
C'est ça qui est la maison du gouverneur?
Non, la maison du gouverneur est tout à côté. On a même enlevé les toits. Nous voyons des anciennes maisons dont certaines ont été rachetées. Mais beaucoup n'ont pas été rachetées. Et nous vivons avec amertume.
Avec beaucoup d'amertume. Ah oui. Et Sassandra, vous avez dit au départ, c'était une ville très mouvementée. Les gens venaient. Et quand vous veniez en vacances, vous étiez heureux. Cette période-là, est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu?
C'était la période où tout le monde se côtoyait. La politique n'avait pas encore pris le dessus. Parce que je vous dis que déjà en 43, j'étais à l'école. La politique a fait son apparition ici à Sassandra en 1946. quand feu notre président que nous pleurons toujours est venu en 1946 avec son frère et ami que je ne veux pas nommer. Donc au jour d'aujourd'hui, ce centre a changé, profondément changé. Les enfants le matin sortent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Donc si nous sommes en train de voir comment la politique peut nous aider, si demain la politique nous aidait à avoir ne serait-ce qu'un simple port de pêche, déjà avec la pêche artisanale, c'est 400 tonnes de poissons que nous sortons de la mer. Mais si nous avions un port de pêche, ça donnerait un peu plus de travail aux enfants et ça nous rendrait un peu plus heureux encore.
En venant aussi, j'avais une information. On me disait que l'île qui est en face, des gens y habitaient.
Non, l'île qui est en face, personne n'habite. L'île qui est en face appartient à Kada. Tapa Kada, je vous ai dit tout à l'heure, Tapa Inagoi, celui qui a fondé Gaoulo. Tapa Dukwa, celui qui est resté à Misei. Tapa Dako, ce sont ceux qui sont à Bourguet. Et quand les Blancs ont commencé à s'installer, ils nous ont demandé de nous déplacer. Nous sommes allés dans l'île. Mais de l'île, dans l'île, nous avons eu des problèmes avec nos propres frères de Sesandraville. Il y a eu des bagarres, nous avons été vaincus et nous sommes partis. Nous sommes repartis sur Misei, qui est notre village d'origine. De Misei, nous sommes allés à Lateco. Donc c'est là que nous étions. Puis on a pu négocier avec nos frères d'Aroba pour nous trouver à Trépoint. Personne n'habite l'île. L'île appartient aux gens de Kadroba. Même nous avons passé des contrats avec l'extérieur pour la construction d'un village touristique. Tous les papiers ont été signés, les plans et tout a été mis en place quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. 3 ans après, les investisseurs m'ont téléphoné, l'argent doit travailler, mais il ne peut pas dormir. Donc, ils ont décliné l'offre. Il n'y a personne qui habite, c'est des clandestins qui ils font des plantations. Mais l'île appartient aux gens de Kadroba. Nous avons les papiers. Et nous sommes même en train de chercher des investisseurs pour l'île. Mesure 8 km de long, en largeur, quelques endroits, c'est 3,5 km ou 4 km. Notre pensée à nous, c'est de diviser l'île en deux. Dans le temps, on avait même des rhinocéros là-dedans. On avait toutes sortes d'animaux, sauf les éléphants et certains animaux. Alors nous nous sommes dit, si on divise l'île en deux, 4 km pour l'investissement, et les 4 autres kilomètres, nous allons repousser les animaux là-dedans. Ce qui fait que les propriétaires ou les investisseurs auront ce qu'ils veulent, et aussitôt, ils auront un parc animalier.
Papa, nous repartons. Vous pensez vraiment nous avoir dit toute l'histoire de Sassandra? Vous avez dit le nom d'un village tout à l'heure.
Misei, c'est le village mère des Néo.
Est-ce que ce village existe encore?
Il existe, mais pas avec la même grandeur qu'autrefois. Les enfants ont créé 3 villages, Gaourou, Misei lui-même, Kadroba, Bourguet.
Et qu'est-ce qui s'est fait dans ce village pour qu'on puisse avoir une idée du passé?
C'est là que nous retrouvons le tam-tam sacré, nous retrouvons les choses très anciennes. Bon, maintenant, on est arrivé, nous faisons partie du groupe Krou, mais on est arrivé différemment. Vous avez le groupe Batrebré. Ceux-là, c'est des bétés de Soubré, précisément de Tabayo. Et ce sont les premiers arrivés au bord de la mer par le jeu, disons, de la chasse. À Tabayo, vous avez plusieurs familles, et dans ces familles, il y a une des familles qui possédait la lance. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de fusil. Et dans l'autre famille, il y avait le chasseur. Donc ceux qui avaient la lance avaient des difficultés pour protéger leur plantation. C'est comme ça qu'ils sont allés demander à ceux qui ont le chasseur de les aider. Ce qui a été fait. Et ils sont allés protéger le champ, mais ils sont partis à deux, les deux familles. Il a piqué l'éléphant. Pendant 4 jours, ils ont suivi l'éléphant qui ne s'arrêtait pas. Ils l'avaient même perdu de vue. Donc, le représentant de ceux qui avaient la lance s'est retourné pour porter la nouvelle. Et l'autre, le chasseur, lui, il a suivi l'éléphant. Il est sorti à Niezeko. Maintenant, pour repartir, il avait des difficultés. Il est resté longtemps, longtemps. Il avait pas de lame à cette époque, donc il était totalement transformé. Puis un jour, il retourne au village. Il avait complètement changé. Et c'est lui qui est parti avec de l'eau de mer, des coquillages et tout ce qu'il pouvait emporter. C'est qu'une partie de ceux de Tabayo sont venus pour créer Batrebré 1, Batrebré 2, Batrebré 3. C'est le dernier direct. Ce sont ses enfants qui sont là. Il est décédé. Lui, il est le fils du garçon. Moi, je suis le fils de la femme. Ici, c'est le fils du garçon qui commande. Entre lui et moi, il y a un âge très, très avancé.
Papa, infiniment merci. On va revenir encore en nous donnant aussi cette facilité pour que nous puissions revenir vous voir, parce que en une seule journée, on peut pas tout avoir. Mais on a eu l'essentiel. Vous savez ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, vous en avez parlé un peu. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose, puisque nous sommes dans la réconciliation, dans le pardon, il faut accepter l'autre.
Oui, il faut accepter l'autre. Un homme est fort quand il est droit. Quand vous êtes droit, vous êtes fort. Mais quand vous êtes droit et que vous n'êtes pas fort, c'est que vous n'êtes pas fort. Alors, il faut qu'on se pardonne tous. Il faut que nous revenions au point de départ, dans nos maisons, pour former la grande famille que nous avions formée tout le temps, de tout le temps. C'est, pour moi, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. On s'assoit, l'Africain, d'une façon générale, s'assoit sous l'arbre à parable et discute. Si nous nous asseyons pour discuter entre nous, on trouvera la solution. Il n'est pas question d'aller ailleurs pour parler de ce qui nous intéresse. Le linge sale, c'est les blancs qui le disent, se lave en famille. Alors, pour moi, il faut que nous fassions rase de tout ce qui s'est passé et qu'on se retrouve en famille. C'est déjà l'essentiel.
Merci, papa. C'est l'essentiel. Vous avez tout dit. La Côte d'Ivoire reste une et indivisible. La Côte d'Ivoire d'Oufou-Ouagne et des autres doit se poursuivre. C'est-à-dire, nous formons une seule famille et nous n'avons pas le droit de diviser cette famille. Nous devons rester une seule famille. Monsieur Jean-Philippe Onyango, vous avez quelque chose à nous communiquer sur Sassandra. Vous vous occupez du tourisme, vous venez régulièrement à Sassandra. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Eh bien, la ville de Sassandra est une ville importante dans la politique que nous menons ici au niveau de la promotion de la destination Bas-Sassandra. Et donc, cette ville de Sassandra est une ville historique, à l'image de Grand Bassam. C'est une ville qui se distingue des autres. On peut dire que Sassandra est une ville qui a les pieds dans l'eau, puisque la mer se trouve au centre même ville. Et je l'ai dit, elle se distingue en tant que ville historique dans la mesure où, avant même qu'on ne parle de San Pedro, Sassandra a joué un rôle essentiel. Et donc là-bas, on retrouve les vestiges du palais du gouverneur. Les grandes sociétés commerciales africaines en son temps ont encore leur grand magasin, les entrepôts qui existent encore. Il y a, il faut le dire, le pont Wigan, un pont du gouverneur Wigan. On ne peut pas oublier le monument des naufragés du bateau Dumas, qui fait l'objet d'un culte annuel de la part de l'Angleterre. Et nous n'oublions pas aussi que Sassandra, au-delà de cet aspect historique, a aussi une île, l'île de Gaoulou. L'île de Gaoulou, qui est une île extraordinaire, une île qui abrite des espèces rares au niveau de la faune et de la flore au monde. Et donc, c'est une ville importante. C'est vrai aujourd'hui, Grand Bassam est patrimoine mondial de l'UNESCO, mais nous pensons que si un effort est fait, on peut aussi sauver les monuments qui sont à Sassandra et faire d'elle un instrument important dans la promotion de la destination Bas-Sassandra.
auditeurs, religieusement écoutez notre interlocuteur. Il vous reste à plier bagages pour venir à Sassandra. Nous sommes toujours avec notre ami Jean-Philippe Nyango qui va peut-être conclure.
Alors, pour conclure, il faut le dire, nous avons écouté la population de Sassandra et c'est un peu la déception, la désolation. Mais il faut que cette population prenne conscience de ce que elle est assise sur un trésor. Alors, tous ces vestiges que nous avons cités, ces monuments historiques, avec une volonté politique, avec un peu d'aménagement, peuvent devenir un levier pour le développement de cette ville. Et donc, il faut peut-être tourner le regard vers les choix de développement que nous faisons. Et nous pensons que le tourisme peut être un levier important pour le développement de cette ville. Alors, nous avons fait tout le tour pour faire une synthèse. Nous retenons ceci, qu'en réalité, le tourisme et la culture sont deux enfants de la même mère. Et que, d'une certaine façon, le tourisme n'est que l'aspect commercial de la culture. Et qu'il est important pour, d'abord, la mémoire collective que nous puissions préserver notre patrimoine culturel immatériel. Nous sommes issus d'une culture de l'oralité. Nous ne devons pas en rougir, nous devons pouvoir nous appuyer là-dessus et nous devons pouvoir aussi dire merci à cet effet. Et vraiment au monument aux dinosaures qu'est Jules Coffey-Yobois, qui depuis de longues années continue, n'est-ce pas, de travailler à ce que la culture occupe la place qui devait lui revenir de plein droit. On le sait, on le dit, que la culture est la base de tout ce que nous faisons. Vraiment, nous nous réjouissons de ce que ces sachants qui, dans nos villages, dans nos villes, dans nos contrées, aujourd'hui, sont complètement ignorés par la jeunesse, à qui on n'accorde aucune importance, nous avons peur. Nous avons eu peur et c'est pour cela que nous avons tout fait pour que vous soyez là, que ces savoirs et ces savoir-faire, ces bibliothèques-là disparaissent sans laisser en héritage ce patrimoine qu'ils ont. Nous réjouissons donc de votre présence et nous disons que il y a de la matière ici et les auditeurs se rendront compte de ce que, en réalité, cette région regorge d'immenses potentialités qu'il serait bien de mettre à profit pour le développement de notre pays, pour résorber, par exemple, la question du chômage. Parce que, il faut le dire, si le secteur du tourisme reçoit le soutien qu'il faut, avec l'investissement qu'il faut, eh bien, c'est beaucoup d'emplois qu'on va offrir à la jeunesse et ainsi on va les éloigner de ce que nous ne souhaitons pas.
Merci infiniment. À la prochaine.
Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, les origines à nos jours. Présentation, Jules Coffey-Yobois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.